Mathieu Pellerin, bonjour.
Bonjour.
Avec cette double attaque de Ouagadougou, a-t-on changé d'échelle?
Je serais tenté de vous répondre oui et non. Non parce que l'immense majorité des attaques perpétrées par les groupes djihadistes jusqu'à aujourd'hui l'ont été contre des cibles militaires. En revanche, effectivement, l'ampleur de l'événement est nouveau. C'est la première fois qu'un état-major et une ambassade sont ciblés simultanément avec des moyens importants et dans une capitale sahélienne.
Alors le GSIM, le groupe de Yad Agrali, a revendiqué des attaques, affirmant avoir agi en représailles à une opération française au Mali. Et c'est vrai qu'en ce moment, la France et le Mali exercent une pression militaire très forte, hein, sur ce groupe. Est-ce que, cette double attaque, doit conduire à une remise en cause, de cette stratégie, selon vous?
Alors, il me revient pas de dire qui doit faire quoi, hein, mais je constate simplement que la stratégie actuelle montre ses limites. Cette double attaque, elle démontre qu'en dépit de très lourdes frappes comme celle perpétrée par la France à Tinzawatène, que vous mentionniez, qui a tué plusieurs hauts cadres du groupe, ce groupe garde une résilience certaine. Et finalement, c'est ce qu'on observe depuis 2013. Avant même cette frappe, vous aviez eu de très hauts cadres d'Acmi, d'Al-Mourabitoun et d'Ansardine qui avaient été tués ou arrêtés. Et pourtant, regardez les chiffres. La menace ne cesse de s'étendre géographiquement et d'être de plus en plus létale. Et sans compter qu'au-delà de l'attaque de Ouagadougou que vous mentionniez, il faut aussi observer comment les groupes djihadistes évoluent. Et actuellement, ils étendent progressivement leur influence vers le sud. L'est du Burkina Faso, l'ouest du Burkina Faso, le sud du Mali. Donc la stratégie, en tout cas, montre ses limites et peut-être qu'il serait bienvenu d'imaginer d'autres options.
Il faut sortir du tout sécuritaire, selon vous, c'est une spirale.
Je suis pas naïf et la pression militaire fait partie d'un arsenal plus large à la disposition des États et il ne faut pas complètement l'abandonner. Mais pour la France, il est évident que la stratégie actuelle de responsabiliser les forces armées et de police nationales au niveau du G5 Sahel, c'est sans doute la bonne approche. En revanche, le pendant de cette responsabilisation militaire, ça devrait être, à mon sens, de laisser aussi la possibilité aux États de définir ce qu'est la stratégie à l'égard de ces groupes. Je dirais qu'il y a un paradoxe qui est assez révélateur, c'est que d'aucuns considèrent que le djihadisme au Sahel, il est beaucoup moins religieux que social, économique ou communautaire, certains disant que ce ne sont pas des djihadismes et des bandits, etc. Mais alors si c'est le cas, pourquoi refuser obstinément de parler avec eux?
Vous parlez donc de la nécessité d'ouvrir des négociations. Alors, des négociations avec qui? Avec quelqu'un comme Yad Agrali?
Bon, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, vous avez deux manières, hein, classiques de négocier avec des groupes comme cela. Soit vous ciblez le plus haut niveau hiérarchique de l'organisation, et à ce moment-là, vous rentrez dans une discussion et un processus de négociation en vue de démobiliser tout le groupe, ou alors vous négociez simplement avec des branches de ce groupe afin de le diviser et ensuite de l'affaiblir militairement. Donc, on peut négocier avec tout le monde. Le tout, c'est d'avoir la volonté politique à la base, de ne pas éprouver de blocage de la part éventuellement d'autres États. Mais voilà, ça relève de choix souverains des États.
Avec une rébellion, on peut négocier l'autonomie d'une région, des postes dans un gouvernement, mais qu'y a-t-il à négocier avec ces groupes djihadistes?
Bah, il faut leur parler pour savoir. Je pense que ça peut être composite, hein, c'est-à-dire que vous avez sans doute au niveau de la très haute hiérarchie de ces groupes des revendications du départ des forces internationales, sans doute aussi la non-militarisation du nord du Mali par les forces armées maliennes, et puis des révisions touchant à la laïcité et à la charia. Pour ce qui est ensuite de la composition de ces groupes, et notamment du corps combattant, là, sans doute qu'il peut y avoir d'autres options plus classiques touchant à la réintégration civile. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être envisageable.
Et c'est une idée qui fait son chemin à Bamako. Y a-t-il des contacts qui se nouent? Qu'en dit le gouvernement?
Bon, vous avez au niveau du Mali, du Burkina et du Niger des initiatives qui, je dirais, sont portées soit par la base, soit qui ont été impulsées à un plus haut niveau, mais qui jusqu'ici ont été embryonnaires et n'ont pas permis, franchement, d'établir un contact constructif. Il y a, semble-t-il, aussi un message un petit peu brouillé, notamment du côté malien, où vous avez eu une impulsion lors de la conférence d'entente nationale l'an dernier, qui a ouvert la voie à la discussion avec ces groupes. Ensuite, la désignation d'une mission des beaux offices dirigée par l'imam Mahmoud Diko. Et puis aujourd'hui, effectivement, un discours un peu plus dur de la part du président malien. Hein. Récemment, dans une interview, il a mentionné qu'il était hors de question de discuter avec ces groupes djihadistes. Donc, manifestement, on ne sait pas trop et il est difficile de se prononcer sur le soutien dont bénéficient les quelques initiatives qui sont initiées çà et là actuellement.
Pourtant, selon vous, les accords d'Alger sont obsolètes, hein, ils sont inadaptés aujourd'hui?
Oui, ils sont inadaptés parce qu'ils négligent deux éléments essentiels. C'est d'une part le narcotrafic et l'influence des groupes djihadistes. Et je rajouterais aussi qu'il y a certaines recettes qui ne sont pas obsolètes, hein, comme la décentralisation ou le processus de DDR, mais c'est plutôt la temporalité de leur mise en œuvre qui est aujourd'hui inadaptée. Il y a aussi un autre point qui est inadapté, c'est que les accords d'Alger ont été signés alors qu'il n'y avait pas encore de mouvement armé dans le centre du Mali. Donc ça nécessite de pouvoir, à minima, négocier des accords additionnels ou ad hoc aux accords d'Alger pour pouvoir inclure les groupes qui sont constitués dans le centre du Mali.
Mathieu Pellerin, merci.
Merci à vous.